Nous lisons donc Luc 15, les versets, à partir du verset 11. Il dit encore, Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. Cet homme a donc deux fils et beaucoup de biens. Ces deux fils ont donc beaucoup de chance. Il faut dire ce qui est, non ? Une sorte de grâce comme ça qui est saisie dès le départ sans qu'on n'y puisse rien. Papa et maman sont riches. Et forcément avec ça, des destins tout tracés. L'aîné, dans la tradition, reprendra l'exploitation. C'est normal, c'est écrit. Et le cadet fera de belles études et créera son entreprise avec l'aide de papa. Et il fera sa vie, comme on dit. C'est comme ça que ça doit marcher. Et le cadet réclame sa part d'héritage à son père. Rien d'anormal dans tout ça. Le jeune fils, et c'est beau, ressent le désir de réaliser sa vie, prendre en main son existence. Et le père consent à ce désir, sans broncher, sans poser de questions. Je ne connais pas beaucoup de parents qui auraient signé le chèque sans s'inquiéter un peu du projet de vie. Mais pas ce père-là. Il partage ses biens équitablement entre les deux, sans discuter. Il donne à chacun sa part, c'est-à-dire la possibilité de se réaliser, le cadet comme l'aîné. Pour le cadet, l'heure est venue de voler de ses propres ailes. Donc là, il est à dos d'âne, hein, mais... Et il ne va pas faire les choses à moitié. Il part pour un pays lointain. Mais finalement, rien que de très normal dans ce début d'histoire, une histoire de vie abondante, de liberté et même de justice. Jusque-là, tout va bien. Là, il vécut dans le désordre et gaspilla ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il se mit donc au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Eh bien voilà, quand on fait des choix dans la vie, on prend des risques. Quand on décide de prendre en main les rênes de son existence, de se réaliser, on court toujours le risque de se planter. C'est ainsi. Et si en plus on est un fils à papa, c'est-à-dire que si tous les problèmes de la vie nous ont été épargnés jusque-là, le pourcentage de risque de faire fausse route est encore plus grand. L'indépendance que le jeune fils revendiquait se transforme soudain en esclavage. Il perd tout et devient dépendant. C'est la catastrophe. Il n'a plus un sou. Lui, le bien-né, le fils de bonne famille n'a pas d'autre choix que la vie du travailleur migrant. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose de terrible. Ceux qu'on exploite, sans état d'âme, qu'on considère comme des sous-hommes, il connaît la faim, il perd sa dignité, parce que pour un juif, garder des porcs, c'est l'animal qui est considéré par la loi comme impur, par excellence, si j'ose dire. C'est le comble de la déchéance. Le voilà semblable à une bête. À une bête impure. Et on dira qu'il n'a eu que ce qu'il méritait. Qu'il a joué et qu'il a perdu. Qu'il s'est perdu tout seul d'ailleurs. Et qu'il n'y a finalement là rien que de très normal et de très juste. Oui, vous voyez. Hein. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain, de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai, père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il partit pour rentrer chez son père. Après être rentré en lui-même, il décide de rentrer à la maison. Même s'il est conscient que ce n'est plus sa maison et que son statut de fils héritier et consumé, et que son père doit devenir son patron. Mais il espère tout au moins y trouver un boulot moins humiliant que garder les cochons. Il pense pouvoir y gagner sa vie en travaillant. Voilà, il se fait son film. En se racontant cette histoire, c'est en fait tout le film de sa vie qui défile. Et je me trouve proche de ce fils cadet. On fait tout ça, non? On se raconte les histoires qui nous conviennent le mieux. Celles où notre image est la plus présentable. Un petit peu de Larsen. L'image, on s'écrit l'histoire où finalement on va présenter l'image la moins altérée, la plus positive. La réalité, c'est que, un petit peu plus de volume s'il vous plaît, la réalité c'est que ce jeune homme, il s'est perdu dans sa vie. C'est exactement ce que signifie le mot péché. On le voit pas assez souvent, mais péché, dans l'étymologie du terme, c'est perdre le cap. Perdre, c'est perdre, en fait. Perdre sa route, passer à travers, errer. Vous voyez, il y a cette idée de se perdre sur un chemin. Et le jeune raconte sa lecture des faits. Père, non, c'est encore là. Voilà. Père, je suis passé à côté de ma vie, donc j'ai péché. Je le retraduis. Hein. Je suis passé à côté de ma vie, je me suis perdu. Cette vie dont je voulais être le seul maître, cette vie que j'ai croquée à pleines dents, il n'en reste rien. Je suis perdu. Bon, jusque-là, c'est un psychodrame, somme toute, assez classique. Hein. Un brin ennuyeux, non? tout est écrit d'avance. Le fils cadet qui est un petit peu rebelle, tout ça. Bon. Eh bien, le récit va basculer maintenant. Attention, la parabole va partir de travers là. Elle va devenir une prédication, la prédication du règne de Dieu. Regardez le changement d'angle que prend le récit. La caméra n'est plus sur le fils cadet, elle est maintenant sur le père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému, pris aux entrailles. Le langage est assez étonnant ici. C'est un père utérin qui est présenté, maternel. Et il courut se jeter à son cou, et j'aime beaucoup la traduction de Darby, et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » On aurait pu s'attendre ici à un fils qui fait profil bas, vous voyez, un peu gêné, devant un père circonspect, les bras un peu comme ça, vous voyez, les sourcils un peu froncés, attendant des excuses, des explications. Ça, les parents, je mets au défi les parents qui n'ont jamais dit « J'attends des explications !» Ouais, vous confirmez. Rien de tout ça. C'est un père qui se jette au cou de son fils. C'est cette histoire-là qui est racontée. Un père fou de joie. Mais le fils reste dans sa ligne. Je crois que j'avais un petit dessin, là, oui. Il récite le texte qu'il a appris par cœur en chemin. « Père, j'ai péché contre le ciel, nanani, nanana. » Et le père ne le laisse pas terminer sa tirade. Il le coupe, mais il le coupe à un endroit précis. Il le coupe à un endroit stratégique même. Il le coupe entre deux phrases, et pas n'importe lesquelles, il le coupe entre le « je ne suis pas digne d'être appelé ton fils » et le, qu'il avait préparé, « traite-moi comme l'un de tes employés ». Ça, il n'aura pas le temps de le dire. Le père ne permet pas à ce fils de retour à la maison de décider de devenir quelqu'un d'autre qu'un fils. Le père ne lâche pas son fils. Il le reconnaît inconditionnellement comme son fils. Mais le père dit à ses esclaves, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Ouais, j'ai quand même noté qu'il y avait plus de 20 tables. Je ne sais pas pourquoi, par rapport à la fête que faisait le fils dans sa première vie. Bon. Ce n'est pas une image très bordelaise, hein, quand même. Mais ce qui est spectaculaire dans l'attitude du père, c'est que cette attitude est injuste. Le père n'est pas juste. Son attitude n'est pas conforme à la justice de la rétribution qui est commune à tous les codes de droit, à toutes les sociétés. Ce père, à ce moment du récit, ne devait pas proposer une fête monstre. Ce qui est scandaleux, ce qui bouscule les repères et même le fondement des relations normales et même les fondements de la justice, c'est cet amour inconditionnel, cette joie qui surabonde, qui emporte tout. Mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. il était perdu, il est retrouvé. Ce qui donne accès à la joie, à la vie pleine et à la fête véritable. Ce n'est finalement pas cette chimère, cette illusion de la vie indépendante, autocentrée et solitaire. Ce n'est pas non plus la logique du donnant-donnant qui donne accès à la vie, à la vraie vie. Tu es fidèle, alors je te bénis. C'est ça votre Dieu ? Ce n'est pas le mien. L'Évangile est ailleurs. Il est sur la voie étroite, sur la petite porte de derrière, celle par laquelle nous accédons à la surabondance de la grâce, une grâce donnée en échange de rien, c'est-à-dire inconditionnelle. C'est là que se produit le renversement de toutes les normes que nous connaissons, sociales et religieuses. Celles de la dignité, de la liberté retrouvée, là où l'on attendait que le jugement, la sanction, la rétribution. Ben non. Fin de l'histoire, ou enfin presque. Après le fils cadet, le retour, comme dans les séries. Deuxième épisode, le fils aîné, le retour. Donc on ne parle que du fils prodigue, je ne sais pas pourquoi, mais le texte, vous savez, en termes de quantité, impartit à peu près le même nombre de versets pour les deux fils. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as abattu le veau engraissé. » Et le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort et il est vivant. Il était perdu et il est retrouvé. » Voilà, on peut avancer. La petite photo, la petite image, justement. Si le fils cadet, avec sa vie de patachon, nous fascine, on prend souvent le fils aîné un peu en pitié. Vous savez, le gars bien rangé, à la vie un peu ennuyeuse, le célibataire bosseur, coincé, avec l'arrêt sur le côté, la chemise boutonné jusqu'en haut. Quoique l'arrêt de côté, il faut se méfier, c'est devenu un nouveau critère de la mode actuelle. Hein. Voilà, il est, en plus de cela, faut revenir un petit peu en arrière, hein, vous voulez voir s'arrêter de côté. Voilà. Il est très à cheval sur la morale. Ton fils, sous-entendu le petit dernier, ton chouchou, a dévoré son bien avec des prostituées. Mais quand on regarde le récit, il n'est pas dit qu'il a brûlé sa vie avec des prostituées. Il dit qu'il a eu une vie de désordre, on ne s'attend pas hein, sur le détail. C'est le fils aîné, lui, qui en ajoute un peu, qui... parce que lui, il est propre sur lui. Il est un peu frustré aussi. Et il veut des explications. Il est finalement très centré sur lui-même. Il réécrit l'histoire, lui aussi, comme l'avait fait son frère. L'histoire comme ça l'arrange, l'histoire qui lui convient. Il a oublié les faits. Parce que les faits sont ici. Un homme avait deux fils, non pas un. Le plus jeune demanda sa part et le père partagea ses biens entre eux. Entre eux. Ça, on ne le remarque pas souvent, mais l'aîné a eu sa part, comme le cadet. Et quand il dit « ton fils a mangé ton avoir avec des filles », c'est faux. C'était son avoir qu'il a dépensé avec des filles, si c'était bien l'objet de la dépense. C'est ce que lui avait donné son père. Et quand l'aîné dit encore « je te sers depuis tant d'années, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis », c'est faux. Là, l'aîné est en train de dévoiler le type de relation qu'il entretient avec son père. Pour lui, c'est un patron, c'est pas un père. Et il estime que son obéissance à ce patron lui vaut quelque chose. Un bonus, une bénédiction. Il n'a pas compris que le chevreau qu'il réclame lui appartient déjà. Il a eu sa part. Alors, bien sûr, ces deux fils sont un petit peu des caricatures de la vie. Ils décrivent deux modèles de vie en apparence tout à fait opposés. Mais surtout, deux types de relations au père, deux types de relations avec Dieu. On a le rebelle et on a le premier de la classe. L'insoumis et le conformiste. Le conformiste croit que sa soumission, son obéissance consentie, lui rapportera un jour quelque chose, lui donnera même accès à la vie. Et l'insoumis, lui, cherche son salut dans le lointain, dans l'indépendance, dans la rupture. Mais les deux fils sont en réalité sur la même ligne, exactement la même. Tous deux sont captifs de ce dogme que nous avons d'ailleurs combattu férocement dimanche dernier. On est ce que l'on fait. On est le résultat de nos choix de vie. Les deux sont dans cette logique-là. Eh bien, ce n'est pas la logique de l'Évangile. Ce n'est pas ce que dit cette parabole. Nous sommes des fils et des filles aimés d'un Père qui nous donne ce qu'il a, qui nous aime, sans rien attendre en retour, comme un Père, comme une mère qui attend notre retour, sans nous imposer leur choix. Un Père ou une mère qui nous cherche, qui inlassablement nous invite à entrer. C'est dans cette relation d'amour gratuit et inconditionnel que tu peux, mon frère, ma sœur, ce matin, te découvrir vivant et retrouvé, vivant et retrouvé. Et toi qui écoutes cette histoire, qui veux-tu être finalement? Jésus ne te demande pas de choisir entre deux styles, fils cadet, fils aîné, non. Il t'appelle à choisir entre une vie enfermée dans la culpabilité, la honte ou le ressentiment, et une vie libérée où la joie et l'amour du Père surabondent. Alors pour être retrouvé vivant, vivante, qui veux-tu être ? Ma sœur, mon frère. Amen.